Alors nous sommes entrés cette semaine dans la période du carême, 40 jours, 6 semaines pour se préparer à la fête de Pâques. Le chiffre 40 revient souvent dans nos textes bibliques et notamment dans la traversée du désert du peuple d'Israël après la sortie d'Égypte. Et Jésus, lui, eh bien, il fait aussi sa traversée du désert. Pendant 40 jours, il est dans le désert et ensuite il est tenté par le diable, il est mis à l'épreuve. Évidemment, on pourrait dire, qui a écrit ce texte? C'est vrai que c'est un mystère parce que Jésus était seul. Alors je n'ai pas de réponse à cette question, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce texte-là est le modèle, finalement, de toute tentation rencontrée par les croyants. Et puis, il est important aussi de se dire que Jésus lui-même a pu être tenté. En tant qu'être humain, il connaît l'ambivalence de nos choix, de nos choix de vie, de nos hésitations. Nous avons sans doute nous-mêmes aussi connu des moments de doute, de tiraillement, d'hésitation dans notre foi en particulier. Ce temps de carême est vécu de manière très différente dans toutes les églises du monde entier et les réformateurs protestants ont voulu se démarquer d'une pratique catholique trop rigide pour ne pas risquer d'en faire une œuvre qui apporte le salut. En fait, nous sommes chacun et chacune responsables devant Dieu pour décider ce qui nous permettra le mieux possible de nous préparer à accueillir le don de Jésus-Christ à Pâques, donc dans sa mort et sa résurrection. Pâques est la fête la plus importante de notre vie chrétienne et c'est à nous de mettre du sens dans cette préparation. Alors il y a plusieurs manières de vivre ce temps, dans la prière, dans la méditation biblique et même d'écouter les conférences de carême protestants sur France Culture. Et oui, cette année, la pasteure de Montparnasse-Plaisance, une collègue du consistoire, Marie-Pierre Courneau, parlera de Ruth sur France Culture tous les dimanches à 16h. Évidemment, vous pourrez le réécouter en podcast. Alors, je me disais, nous n'avons pas de signe véritable pour nous préparer. Au moment de Noël, on a les 4 semaines de l'Avent et on allume une bougie à chaque semaine, à chaque dimanche. Et je me disais, il faudrait inventer un signe propre à nous, qui ferait sens pour les protestants, pour marquer finalement les 6 dimanches qui précèdent Pâques. En tout cas, ce texte de la tentation marque le début. Alors, dans ce texte, si on lit un petit peu avant le texte, Jésus vient d'être baptisé. On est au tout début de son ministère, il a reçu l'Esprit Saint, et aux surprises, et ça a toujours été une grande surprise dans ma vie, l'Esprit Saint le conduit au désert. Il le conduit dans l'épreuve. La première chose que nous pouvons dire, c'est que le ministère de Jésus commence par une lutte. Une lutte qui va annoncer les 3 ans de son ministère. Et une lutte aussi pour tous les croyants. Ça n'est pas confortable d'être chrétien. Le dialogue entre Jésus et le diable peut être vu comme un dialogue avec la personnification du mal. Le mot diabolos en grec signifie celui qui jette en travers le diviseur. C'est une puissance qui cherche à diviser et notamment à diviser dans nos relations, mais aussi à diviser de l'intérieur, à l'intérieur de nous. Ça peut illustrer les luttes intérieures que nous connaissons. Et puis ce récit nous enseigne aussi sur notre manière d'être en relation avec Dieu et sur les tentations qui risquent de nous éloigner de Dieu. Le mot grec, qu'on traduit par tentation, c'est perasmos et on peut le traduire aussi par épreuve. On retrouve le même mot dans la prière du Notre Père que nous dirons tout à l'heure. « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». On pourrait dire « ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve ». En effet, combien de fois les épreuves peuvent nous éloigner de Dieu? Alors Jésus vient de recevoir à son baptême son identité de fils de Dieu. Et là, le tentateur essaye de l'enfermer dans cette nouvelle identité. Le diable dit « Si tu es fils de Dieu, alors agis de telle ou telle manière. » Alors évidemment, dans son ministère, Jésus avait une énorme puissance dans les mains, la puissance de guérison, la puissance de résurrection. Il va être tenté par rapport à cette puissance-là. Va-t-il l'utiliser pour lui-même ? Jésus ne se laisse pas enfermer dans la projection que fait le tentateur de son identité. Et ça, c'est une vraie leçon pour nous. Combien de fois les tentatives d'avoir du pouvoir sur l'autre passent par un verrouillage de l'identité. Si tu es, alors on pourrait mettre tout plein de choses, hein, si tu es un homme, une femme, tu dois te comporter comme cela. Si tu es un bon ouvrier, alors tu dois faire ceci. Et dans ce temps de carême, on peut réfléchir justement à la manière dont ces « si tu es » sont utilisés dans nos vies. Peut-être que nous, on a envie de les utiliser ou peut-être qu'on en est victime, enfermé dans une identité. « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » La première tentation concerne le manque. Le tentateur demande de transformer les pierres en pain pour que Jésus fasse cesser la douleur de la faim en lui. En faisant cela, le diable lui demande de dépasser les limites de la création. En effet, quand Jésus va multiplier les pains, il multiplie, il le fait à partir de pains existants. Là, on lui demande de faire un geste de transformation magique, ce qu'il ne fera jamais. Alors cela nous pose la question du manque. Parce que depuis notre naissance, le manque est inhérent à notre existence. Quand le bébé sort du ventre de la mère, eh bien, voilà, il y a la faim qui va le tenailler, mais il y a le manque de nourriture, mais aussi, évidemment, très important, le manque d'amour. On est toujours en manque d'amour, on est toujours en quête d'amour. Mais l'épreuve de la faim est une épreuve physique difficile, et on peut être tenté sur nos épreuves physiques. En France, on ne meurt plus de faim, mais la nécessité de se nourrir tous les jours est fondamentale. Et dans notre manière de nous nourrir, eh bien, voilà, comment est-ce qu'on se nourrit ? Et s'imposer des privations alimentaires pendant le carême vient de cette première tentation. Cela peut prendre, pour les gens qui ont envie de se priver de telle ou telle chose, hein, se priver de nourriture un jour, ou alors d'un aliment. Ça permet de se relier à ceux qui ont vraiment faim, et puis ceux qui meurent aussi de faim. Il existe des pays où on continue à mourir de faim. Donc ça permet aussi de se souvenir de cela. Mais ça permet aussi de choisir la sobriété dans d'autres domaines. On peut se rendre compte de la chance que nous avons d'être dans un pays riche où nos désirs sont vite comblés. Mais Jésus va déplacer ce manque de nourriture en un manque de nourriture spirituelle. Il va dire « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Et peut-être que vous aviez envie de continuer dans votre tête. En fait, dans l'évangile de Matthieu, qui a presque le même texte, il rajoute « Mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Et ça, c'est un passage, c'est une citation de l'Ancien Testament dans le Deutéronome. C'est vraiment « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Est-ce choquant si je dis que le manque le plus important pour l'être humain, c'est le manque spirituel ? Nous le demandons dans la prière du Notre Père, nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Et ce pain peut être vu comme un pain spirituel. On essaye souvent de combler nos manques par des satisfactions illusoires et on ne s'en rend pas toujours compte. Toutes les addictions, par exemple, les addictions de drogue, d'alcool, du temps passé devant les écrans, ne sont-elles pas des façons d'oublier ce manque fondamental et des difficultés à se retrouver finalement seul avec soi-même ? La période du carême peut être propice à cette réflexion sur le manque et sur ce manque spirituel et sur ce qui nous fait courir toujours pour avoir toujours plus. La deuxième tentation, c'est celle du pouvoir. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Voici les paroles du diable. Quel bel exemple d'emprise. C'est moi le maître du monde, c'est moi qui possède tout ça et j'ai la capacité de le donner. C'est si tu m'adores, eh ben, je te donnerai tout ça avec la gloire. Alors oui, quelle emprise. On parle beaucoup de l'emprise aujourd'hui comme abus de pouvoir. Emprise dans les abus sexuels, emprise dans tous les abus de pouvoir liés au travail forcé, liés aussi à l'économie. Et je vais vous donner un exemple qui me tient à cœur, mais auquel on ne pourrait pas forcément penser au premier abord. Liés à l'économie comme le lobby pour maintenir les pesticides en France. Ça a fait tellement diminuer le nombre d'abeilles qu'il n'y a plus assez d'abeilles pour polliniser les plantations. Sommes-nous conscients de ça ? L'année dernière, quand on a été à Châtillon-Coligny, le propriétaire qui faisait pousser des oignons nous a dit « On a perdu, je ne sais plus combien, 20 ou 25% de notre récolte parce qu'il n'y avait pas les abeilles pour polliniser. » L'emprise est exercée à partir du moment où l'on considère l'autre comme une proie, comme une possession, facile à manipuler. Et la terre, eh ben, c'est en effet un objet pour notre propre bien-être. On en fait ce qu'on en veut et on la pille. Alors cette emprise, c'est important d'y réfléchir. Au cas où nous en sommes victimes, mais au cas aussi où nous exerçons nous-mêmes une emprise sur quelqu'un. C'est très facile parce que nous avons tous un pouvoir. Dans toute relation, on a un pouvoir, même à notre petite échelle, au sein de nos relations familiales, amicales, professionnelles, dans les loisirs ou même en église, malheureusement nous l'avons vu. Et nous savons bien combien le pouvoir monte à la tête, alors évidemment, on le voit dans des gens qui sont un peu en vue, combien certains dirigeants affirment qu'ils sont missionnés par Dieu. Cela décuple leur puissance et leur assurance et la peur qu'ils font aux autres. Ils justifient ainsi leurs actions qui n'ont comme but que d'apporter le chaos, la violence, la mort, l'exclusion des plus petits, au lieu d'apporter du bien pour tous. Parce qu'en tant qu'être humain, notre mission, c'est d'éradiquer la loi du plus fort pour permettre aux plus fragiles et aux plus faibles de vivre. Alors Jésus entend ce que lui dit le diable et il le refuse. Il répond encore par un passage du Deutéronome en disant « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Et Jésus, dans son ministère, va prêcher un autre royaume, un royaume déjà là, où les récompenses seront moins immédiates, mais c'est ça qui va donner un sens unique et profond à notre vie. Jésus laissera Dieu lui donner la gloire qui lui revient. Ce n'est pas de cela dont il va se préoccuper. Alors évidemment, cela le mènera à la mort, mais c'est après que Dieu lui donnera la gloire, dans la résurrection. Et nous voici à la troisième et dernière tentation. Jésus est mis à l'épreuve sur ce qui est le plus important pour lui. Eh bien, c'est sur sa confiance en Dieu et sur son image de Dieu. Le diable l'a emmené en haut du temple de Jérusalem, donc en haut de toutes les responsables religieux, toute autorité religieuse. Il surplombe toute autorité religieuse et il cite... Donc le diable se met à citer aussi un psaume et qui dit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Donc jette-toi dans le vide. Alors on pourrait dire que Jésus est un peu pris à son propre piège quand même. Encore une citation biblique. Et là aussi ça doit nous faire réfléchir. Comment prendre au sérieux le texte biblique. C'est aussi une tentation. Le diable enferme Jésus en lui disant « Si tu ne fais pas confiance à la parole de Dieu qui est écrite là, eh bien tu n'es pas son fils. » Le diable pervertit la façon de lire le texte biblique et enferme Dieu dans une image de magicien. Alors attention à cela. D'une part, nous sommes alertés qu'il faut lire le texte biblique avec du recul. Ces textes ont été écrits il y a 2000 ou 2500 ans. À nous d'avoir l'intelligence de réfléchir quand on lit le texte biblique et de se poser la question du contexte, première chose, et de se poser la question de la cohérence avec le message évangélique. Et puis, sur l'image que nous nous faisons de Dieu, il y aurait beaucoup à dire, mais j'aimerais simplement signaler qu'il y a la théologienne protestante Marion Muller-Collard qui a écrit un petit livre qui s'intitule « L'autre Dieu ». Ah ouais, parce que qu'est-ce que c'est que ça, l'autre Dieu ? En fait, quand il nous arrive malheur, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés et qu'on ne le connaît plus. On s'appuyait sur lui et puis finalement... Voilà, qui est-il ce Dieu qui nous laisse quand même dans l'épreuve ? En quel Dieu on croit ? Comment nous lui demandons d'être présent dans nos vies ? Sommes-nous tentés de lui demander des preuves ? Alors en fait, Jésus vient révéler un Dieu qui est uniquement un Dieu d'amour, un Dieu père et un Dieu pédagogue. Qui veut que nous grandissions, qui nous apprend à grandir, qui nous apprend à aimer. Et l'amour de Dieu se fait discret et gratuit, même s'il est donné en abondance. Cet amour-là n'est pas pour nous donner des sensations fortes et des démonstrations de puissance. L'amour de Dieu est puissant, mais dans un seul but, pour délivrer les humains du mal qu'ils font, et dont ils sont victimes, de ce qui fait mal. Oui, cette histoire nous invite à voir que la puissance de Dieu n'est qu'un amour infini pour chacun, chacune d'entre nous. Alors nous voici arrivés au bout des trois tentations, et ce texte nous fait réfléchir sur notre liberté et nous pose la question : quel est le Seigneur de ma vie ? Quelles que soient nos dépendances, physique, morale et peut-être psychologique. Notre liberté première est de croire que Jésus peut nous guider dans un chemin de vie, un chemin où nous pourrons discerner les loyautés vivantes de celles qui sont mortifères. Et il nous pourra nous apprendre à y résister. Oui, Jésus nous accompagne jour après jour dans nos épreuves, dans nos luttes intérieures. Accueillons-le dans ce temps de carême. Amen.